CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce MAG. On vous propose aujourd'hui le détour par Bioule. Des travaux sont en cours afin de restaurer le château fort médiéval, classé au titre des monuments historiques. Sur le site internet de la municipalité, une collecte ouvre à partir de demain et pour 3 ans, en plus des dons de la Fondation du patrimoine. L'enjeu du projet est d'une part la confortation et la restauration des structures internes et externes du château et d'autre part la restauration des fresques. Ce vaste édifice à la longue histoire conserve en effet des témoins de son passé dans ses murs, mais également sur les murs avec des grands cycles peints entre le 14e et le 16e siècle. Dans le cadre du programme de restauration et d'entretien du monument qui accueille aujourd'hui l'école communale, une équipe de conservatrices restauratrices de peinture murale est intervenue dans la chapelle et sur l'aile sud du château. Nous partons ainsi à leur rencontre, au pied des murs sur lesquels elles ont œuvré pendant de nombreuses semaines, afin de mieux comprendre les étapes de création de ces œuvres picturales monumentales et les enjeux de conservation de ce patrimoine fragile. Elles sont également accompagnées de 4 étudiantes venues apprendre l'art délicat de l'analyse de la restauration des enduits anciens dans la salle des preux avec ses grands cavaliers du XVIe siècle. En étudiant à la loupe tous les revêtements, qu'ils soient faits de chaux ou de sable ou de pigments précieux, elles nous permettent de mieux comprendre les savoir-faire des artistes, artisans et parfois chimistes du Moyen-Âge. Léa Gérardin-Macario, du service inventaire du patrimoine du PETR du Pays Midi-Quercy, sera notre guide.
Bonjour, on est aujourd'hui dans la chapelle du château de Bioule, non loin de la rivière Aveyron. Chapelle qui a été édifiée sans doute pour la première partie au XIIe siècle, un édifice au départ en pierre, et qui a été rebâtie, en tout cas réduite, on va dire, au XIVe siècle par une grande campagne de travaux, assortie à des campagnes de travaux dans le château lui-même, pour devenir donc cette chapelle castrale qu'on voit aujourd'hui, avec ses élévations en partie en briques, et qui a reçu à ce moment-là un grand cycle de décors peints sur des enduits, sur la vie du Christ en particulier, décor qui est vaste et de belle qualité. Et qui a récemment reçu une campagne de travaux de restauration qui apporte de nouvelles données, de nouvelles informations sur ce décor du XIVe siècle. Et nous ici, aujourd'hui, équipe inventaire, on vient un petit peu glaner ces nouvelles connaissances sur ces enduits peints et échanger avec les restauratrices sur les questions qui ont plus trait à l'architecture ou à l'archéologie du bâti dans l'édifice pour essayer de toujours d'en savoir toujours plus. On veut toujours en savoir plus sur nos édifices majeurs dans le territoire du Pays Midi-Quercy. Donc aujourd'hui avec nous il y a Aude Ossiou qui est conservatrice restauratrice d'enduits peints en peinture monumentale et qui va nous parler donc de ses travaux récents qui ont eu lieu ici dans la chapelle et de son métier un petit peu plus en général de conservatrice restauratrice qui est un métier qu'on sollicite ou en tout cas qui nous apporte nous qui travaillons sur l'architecture, qui nous apporte toujours des connaissances nouvelles, parce que nous, on n'a pas l'œil technique et précis qu'ont les conservateurs, restaurateurs, qui soulèvent souvent beaucoup de nouvelles questions.
Bonjour, oui, alors en effet, ici, donc au château de Bioule, la mission qui nous a été confiée était en fait une mission d'étude préalable. Alors, on n'est pas dans une phase de travaux pour l'instant, on est dans une phase d'observation avec pour objectif principal de réaliser un bilan sanitaire sur les différents ensembles de peintures murales présentes dans le château. Il y a eu aussi un volet analyse des matériaux dans notre étude que nous avons confié au laboratoire ERM de Poitiers, qui est spécialisé dans l'étude des matériaux plutôt minéraux et avec qui on travaille souvent. Donc on leur a confié l'analyse de toute la palette de pigments utilisés dans la chapelle.
Ça, c'est justement le genre d'informations qui sont pour nous intéressantes, puisque le décor a été très restauré. On se pose la question des couleurs qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que ce sont les couleurs d'origine ou est-ce que c'est ce qui a été amené par la restauration ou parfois dans le temps les couleurs changent, elles virent, vu qu'elles sont faites parfois à base de métaux ou de pigments qui avec l'humidité ou l'oxygène en fait changent de couleur, puisque là on est face à des peintures qui ont plusieurs siècles d'existence, donc parfois les couleurs changent. Donc voilà, tout, par exemple, l'une des questions importantes qu'on a lors des campagnes d'études de décor, c'est donc ce qu'on appelle la palette chromatique, c'est-à-dire les couleurs tout simplement. Donc ici par exemple on voit beaucoup de bleu, de rouge, mais on voit aussi un peu de vert ou de jaune, notamment pour les nimbes. Ce qu'on appelle les nimbes, c'est les auréoles autour des têtes des personnages. Et donc là-dessus, oui, vous avez eu des résultats intéressants sur les couleurs médiévales d'origine.
Oui, on a à peu près tous les éléments de cette palette, dont certains pigments qui aussi se sont altérés. Donc, c'est des choses qu'on sait, mais le fait de pouvoir les identifier permet de comprendre en fait ce qui s'est altéré, notamment au niveau des rouges. On a pas mal de cinabre, donc qui noircit avec l'humidité. On a des feuilles de métallique pour les dorures, qui sont des mélanges d'or, d'argent et de plomb, d'après les analyses. La présence de plomb est assez rare, donc ça reste à creuser encore un petit peu. Mais en tout cas, la présence d'argent permet de comprendre pourquoi ces nimbes sont aujourd'hui très, très noircies. Les bleus sont des azurites qui ont pâli, et ça dépend aussi souvent de la grosseur du grain. Plus le grain d'azurite est gros, plus il a un bleu intense, plus il est fin, plus il a tendance à pâlir, à griser. Ici, quand on regarde avec une loupe, on voit quelques gros grains qui sont très très bleus, mais dans l'ensemble, on a plutôt affaire à un pigment un peu pâle. Et puis évidemment, toutes ces couleurs sont en partie masquées par un encrassement, alors dans beaucoup de cas réversible, dans d'autres cas plus compliqué à éliminer. On pense ici avoir une présence de suie assez importante. Et c'est en ça qu'il faut qu'on continue nos tests de nettoyage. Voilà. On a aussi des rouges qui s'altèrent, des rouges à base de plomb. On a des jaunes à base de plomb. Voilà, c'est une palette qui est vraiment assez riche. Et bon, voilà, il faut poursuivre encore les analyses.
Et donc, quand vous êtes devant la paroi, soit debout au sol, mais souvent, en l'occurrence, dans la chapelle, sur un échafaudage, parce que la chapelle, là, elle a plusieurs mètres de haut. Donc, quand vous êtes devant le mur et que, justement, vous mettez en œuvre ces études, quelles sont les techniques et les outils que vous allez utiliser? Est-ce que vous faites que regarder avec une loupe? Ou est-ce que vous allez gratter, faire des prélèvements, les parties qui sont très fragiles, est-ce que vous pouvez intervenir dessus et avec quelle technique pour faire en sorte que le décor ne se décolle pas du mur?
Bon, vraiment en phase d'étude, on intervient très très peu directement sur la peinture. C'est essentiellement une phase d'observation, alors avec l'œil nu, avec des lunettes loupe, quelquefois avec de l'imagerie scientifique, des UV, des rayons X. Là ici, on a eu l'assistance du CICRP, le Centre interrégional de conservation du patrimoine. qui est venu faire ici une campagne pour l'abside d'imagerie scientifique, donc qui nous a permis d'avoir un relevé des peintures en lumière UV, en rayon X, en lumière rasante, en noir et blanc, etc. Ce qui permet pour nous d'avoir d'autres observations non accessibles forcément à l'œil nu. Et donc voilà, c'est une phase essentiellement d'observation. On peut utiliser quelquefois notre scalpel quand on a besoin de faire des micro-dégagements pour l'étude stratigraphique. Et puis, on fait beaucoup de documentation pour le constat d'état. On fait des relevés sur une tablette pour localiser les altérations et permettre de documenter un état à un temps donné. Et cette documentation va servir ensuite pour les restaurateurs qui vont répondre au projet de restauration pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir répondre au projet de travaux, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces phases d'études? Quelquefois, on fait des tests de traitement, justement, pour pouvoir mieux évaluer le projet, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est qu'une étude préalable, c'est pour la connaissance des peintures, mais c'est aussi beaucoup pour pouvoir établir les travaux à faire et l'enveloppe qui serait nécessaire, budgétaire. Donc, on fait beaucoup des tests. Ici, on a fait des tests de refixage d'écailles, on a fait des tests de nettoyage, et là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait compléter cette phase d'étude de protocole. Et quelquefois aussi, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on a rajouté ici dans l'étude préalable, ce sont des interventions minimales de conservation d'urgence. C'est-à-dire, puisqu'on vient avec nos échafaudages pour observer toutes les surfaces, on en profite quand même si on voit qu'il y a une peinture qui est un fragment qui est en péril ou quelque chose qu'il faut absolument traiter pour ne pas risquer de ne plus le retrouver la fois suivante. Là, on se permet d'intervenir, mais de façon minimale, à la fois pour sauver évidemment cette partie-là, mais aussi comme on n'a pas fait l'étude des protocoles et qu'on n'est pas dans les conditions optimales pour traiter la peinture, on le fait de manière à ne pas bloquer une intervention plus profonde et qui viendrait ultérieurement. Voilà. Donc voilà, une étude préalable, ça consiste en tout ça. Observer, tester et prévoir les travaux pour la suite.
C'est un métier qui demande des connaissances techniques et savoir, j'imagine, sur les matériaux même, savoir les enduits, souvent c'est fait à base de chaux et de sable pour aller vite. Vous devez connaître qu'est-ce qu'on peut appliquer comme matériaux sur la chaux et le sable pour faire en sorte qu'ils ne se dégradent pas. Donc j'imagine que c'est une formation et un métier qui demande des connaissances sur la chimie, des matériaux et techniques assez importantes.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait nos études, assez rapidement, on se spécialise dans des types de matériaux et non pas dans des périodes comme souvent pensent les personnes. Par exemple, Diane et moi qui travaillons ici, on est spécialisés en peinture murale. Donc c'est pour ça que en fait, notre domaine, c'est plutôt tout ce qui est matériaux minéraux, les enduits, les pigments utilisés en peinture murale, qui sont bien spécifiques, qu'on peut retrouver dans d'autres spécialités, bien sûr, mais on n'est pas restauratrice, par exemple, de peinture de chevalet. Voilà, ce qui sont des choses très différentes, ni même de sculpture en bois polychrome, ni de vitraux. Voilà, chaque type d'œuvre a son restaurateur spécialisé, parce que c'est vrai que la connaissance des matériaux est essentielle, la connaissance des contextes. Une peinture murale, c'est lié à son environnement, au bâti. Et voilà, ça c'est vraiment la particularité de la peinture murale. En formation, assez vite, on doit s'orienter.
Et question un peu, on va dire un peu bête, mais comme vous travaillez sur la peinture murale, est-ce que vous disiez il n'y a pas de période attitrée, mais c'est le support qui fait la spécialité. Est-ce que vous restaurez de la peinture de la préhistoire au 21e siècle? Et si oui, quel grand écart ça fait faire la préhistoire au 21e siècle pour le métier de restaurateur?
Oui, alors c'est exactement ça, de la préhistoire au 21e siècle. Alors Diane est plus particulièrement spécialisée justement dans les grottes rupestres et moi en art contemporain justement. Donc effectivement ça fait faire ça demande de la souplesse. Mais en même temps, on va dire que ce qui réunit ces différentes périodes, c'est une méthodologie, une façon de... Alors bon, bien sûr, avec des cas particuliers, je pense que Diane pourrait parler... Moi, je ne pourrais absolument pas parler de ce qui se passe dans les grottes. De mon expérience, je trouve énormément de points communs, par exemple, même si ça peut paraître étrange, entre le travail que je peux faire sur des enduits peints antiques, parce que c'est aussi une grosse partie de mon travail. Je travaille pas mal sur du fragmentaire sorti de fouilles des périodes antiques gallo-romaines, et je travaille aussi beaucoup sur de l'art contemporain, des peintures murales en art contemporain. Ça demande une méthodologie qui consiste à toujours partir d'un contexte et quand même toujours basé autour des matériaux un peu communs qui sont comme... on disait le support essentiellement. Au-dessus de ce support, il peut se passer plein de choses, mais le support est souvent commun. Et puis ce fait de changer de période aussi enrichit nos diagnostics, notre façon de voir le métier. Et voilà, je dirais qu'en tout cas on peut faire ce grand écart, oui.
Donc maintenant que l'étude a été menée, on espère que les travaux vont pouvoir continuer. Et en quoi ils consisteraient? Est-ce que vous allez repeindre intégralement la chapelle castrale de Bioul pour combler les lacunes, ou plus raisonnablement quels sont les travaux qui vont être envisagés ou qui seraient à faire? Parce qu'on ne sait pas encore ce qui va être fait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire idéalement ici à la chapelle de Bioul?
Oui, alors effectivement, plus raisonnablement, donc il sera évidemment pas question de repeindre. Ce qui va être important pour ces travaux, c'est de mener toute la partie conservation, c'est-à-dire faire en sorte que ces peintures soient stabilisées tant du point de vue de leur support d'enduit, décollé, quelquefois un peu en perte de cohésion. Les couches picturales qui sont écaillées seront refixées, le décor sera nettoyé, la restauration de 1950 sera éliminée, ainsi que les résidus de badigeon qui a un temps recouvert ces peintures. Ensuite, il y aura une nouvelle documentation. Après toutes ces phases, il y aura une nouvelle documentation qui montrera l'état du décor 14e sans cette restauration. Et là, on aura une vision beaucoup plus proche de ce qu'était ce décor. Bon, avec ces altérations irréversibles liées au temps passé, mais malgré tout dans un état beaucoup plus authentique. Et au-delà de ça, on pourra passer à une phase de mise en valeur qui là sera toujours discutée avec la DRAC. Cette phase de mise en valeur, ça va consister en boucher les grandes lacunes d'enduit, les petites, et passer à une phase de retouche. Alors la retouche, c'est uniquement dans les lacunes. On ne repeint pas, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par-dessus le décor. On accompagne ce décor pour permettre au public, à toute personne, de regarder ce décor dans de meilleures conditions, de lisibilité, voire d'esthétique, redonner vie à ce décor part de la retouche, qui est souvent faite avec des tons légèrement en dessous de la peinture originale, et avec une trame qui doit être ce qu'on appelle souvent, par exemple, le tratteggio, que les gens ont peut-être quelquefois entendu. C'est un système qui a été mis au point par les Italiens, qu'on utilisera peut-être ici. Il y a d'autres techniques de retouche tramée, on dit, qui est une technique qui permet de faire un système de retouche qui permet de voir de près que c'est de la restauration, mais de loin, ce n'est pas envahissant. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de cette trame de loin, mais de près, si on s'approche, on voit que c'est le travail du restaurateur. On reste toujours dans le respect de la peinture originale, sans qu'il y ait confusion, comme c'est le cas sur beaucoup de restaurations avant les années 70.
Pour être restaurateur, hein, est-ce qu'il faut être un grand peintre? Est-ce que, en fait, il faut savoir extrêmement bien dessiner? Est-ce que moi, par exemple, qui sais très bien dessiner, je peux devenir restaurateur demain en m'équipant? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on devient conservateur-restaurateur exactement?
Alors, le restaurateur n'est surtout pas un peintre. En fait, c'est un métier technique. Alors, évidemment, dans notre parcours de formation, on apprend les techniques picturales, les techniques artisanales, des métiers d'art, etc., pour comprendre. Mais on n'a pas à exercer ce genre de pratique. Alors, voilà, vraiment, ça fait partie de notre formation. Mais le restaurateur a plutôt une formation technique qui lui permet de comprendre la dynamique des matériaux, de comprendre les altérations, des notions en chimie, en physique, pour pouvoir dialoguer avec des laboratoires. Il n'est pas non plus scientifique, il n'est pas non plus historien de l'art. Il doit avoir des notions pareilles pour réussir à situer l'œuvre sur laquelle il travaille et pour pouvoir solliciter des historiens. Mais voilà, c'est vraiment un métier à part entière qui est assez pluridisciplinaire. Mais c'est une discipline, en fait, qui n'est pas encore, malgré tout, très bien connue, parce que finalement, c'est une discipline qui a été théorisée et vraiment cadrée dans les années 70 avec les grands théoriciens italiens. Et c'est vrai qu'avant, les restaurateurs, les confusions viennent de là, c'est qu'avant, les restaurateurs, on les appelait les peintres restaurateurs ou les peintres d'église, par exemple. Voilà, dans cette pratique de repeindre ou de refaire. Aujourd'hui, on en est loin, normalement, même si malheureusement, ça se passe encore parce que c'est un métier qui n'est pas très bien connu et pas très protégé. Donc, rien à voir avec un métier artistique, même si on peut avoir le goût de ça.
Alors, on était donc dans la chapelle du château de Bioul. On va traverser la cour de récréation, puisque le château est une école aujourd'hui. On va traverser la cour de récréation et aller dans la salle des Preux, qui est là une autre ambiance que la chapelle. On va aller rencontrer les étudiantes qui sont ici au château en stage pour leurs études en conservation, restauration de peinture murale, notamment, pas que peinture murale, mais notamment peinture murale pour aujourd'hui.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Mata Mallet, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'Institut National du Patrimoine, spécialité peinture.
Est-ce que tu peux parler de ce que vous faites concrètement ? Là, je vois un échafaudage à côté, il y a une cafetière qui boue, effectivement, c'est ce qu'on entend en arrière-fond. On entend aussi des enfants qui crient derrière, parce qu'on l'a déjà dit, on est dans une école, le château de Bioul est aussi une école. La salle des Preux, il y a clairement de la peinture murale. Comment ça se passe ?
On étudie, on fait notre première étude stratigraphique, du bâtiment. Sur les quatre murs, on étudie toutes les couches qui ont été appliquées de la brique jusqu'à la peinture en elle-même, qui est plutôt bien conservée. Donc on a l'occasion de pouvoir observer ce qui se passe en surface, mais également avec les trous, pouvoir venir détailler chacune des couches. Comme c'est un exercice un peu compliqué, que toutes les couches ne sont pas forcément homogènes, et qu'on a eu des rajouts, des bouchages, des anciennes restaurations, on essaye de décoller tout ça, enfin de détailler tout ça et de pouvoir avoir une idée globale des différentes chronologies d'application de ces couches, de ce qui est original, de ce qui ne l'est pas, et de s'il y avait par exemple un décor en dessous ou quelque chose comme ça auquel on n'a pas accès aujourd'hui, et essayer de révéler ça et de comprendre mieux pour pouvoir mieux restaurer derrière.
On était au château de Bioul aujourd'hui dans SMEG, un château classé au titre des monuments historiques où des travaux sont en cours, travaux auxquels vous pouvez participer par vos dons. Une collecte ouvre à partir de demain sur le site internet de la commune de Bioul, en plus des dons promis par la Fondation du Patrimoine. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce mag, qui sera comme d'habitude diffusé à 18h et à 21h, comme de coutume, à réentendre sans modération sur le site internet cfmradio.fr. Après les infos, la suite sera depuis CFM Montauban, le mag, avec